Donc ce matin, comme je disais, nous verrons la leçon 4, l'éducation des enfants. Donc nous avions vu la dernière fois l'ambiance familiale, donc nous avions parlé de la communication. Donc j'ai essayé de recenser quelques points de rappel pour nous. Et puis, donc le premier point que j'ai noté, c'est que la communication joue un rôle important dans l'ambiance familiale. Et elle a pour but de servir Dieu. Donc, dans l'ambiance familiale, lorsque nous parlons de communication, l'objectif principal, non, le but principal, c'est que c'est Dieu qu'on sert. Et communiquer, c'est savoir écouter. C'est montrer de l'intérêt à l'autre, c'est savoir se taire. Donc, on nous a dit que communiquer, c'est pas seulement se mettre en train de parler, mais arriver un moment, il faut écouter l'autre aussi qui parle. Et puis, des fois, on peut écouter, mais de façon désintéressée. Donc, quand on écoute, faut être intéressé. Moi, il va m'arriver des fois, quand je parle à quelqu'un, et puis tu as l'impression que la personne est ailleurs. Donc, ça vient te frustrer, et puis tu peux ne plus parler. Donc, au fait, quand on dit on écoute quelqu'un, on montre de l'intérêt à ce que la personne est en train de dire. Donc, c'est ça aussi, communiquer. Et puis, le troisième point, c'est-à-dire que nos paroles soient pleines de grâce, d'amour, de vérité et de franchise. Donc, lorsqu'on communique, c'est que ce que nous disons reflète ce que nous pensons et ce que nous ressentons aussi dans notre cœur. Et la communication aussi, on a dit que nos paroles soient assaisonnées de sel, de grâce et tout ça dont on a parlé. Donc, effectivement, dans notre communication, l'intérêt, c'est qu'on veut qu'il y ait de la grâce, de l'amour, de la vérité et de la franchise aussi quand on communique. Et le quatrième point, c'est dans notre ambiance familiale, il est important de tenir compte du pardon. Donc, dans la communication, je dirais simplement, dans nos relations, il peut arriver qu'on puisse être frustré, on puisse être en colère ou on puisse manquer soit, je dirais, de tact à l'endroit de l'autre, mais vice-versa, il faut qu'on comprenne effectivement que le pardon fait partie intégrante de nos relations, de l'ambiance familiale. Et le dernier point que j'ai noté, c'est que notre communication doit contribuer à favoriser une ambiance familiale paisible. Et la communication, ce n'est pas seulement mari et femme, mais ça intègre aussi les enfants. Okay? Dans notre communication aussi, donc dans nos échanges, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec l'épouse ou l'époux, il est important effectivement qu'on comprenne qu'on veut bâtir, on a dit, un havre de paix. Donc que la maison puisse être un havre de paix, que notre foyer où notre ambiance familiale puisse être un havre de paix. Donc, ce sont quelques éléments-là que j'ai pu faire ressortir. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à rajouter avant qu'on continue sur le coup que nous avions eu la dernière fois. Ou bien, ça va? J'ai fait un petit bon résumé. C'est bon, merci. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir l'éducation des enfants. Donc, au pif, quand on parle d'éducation des enfants, selon vous, ça peut ressembler à quoi? C'est quoi l'éducation des enfants? Oui, vas-y.
Le fouet.
Non, on n'a pas à s'inquiéter, mais le fouet aussi fait partie de l'éducation, OK? Mais maintenant, je dirais, c'est comment fouetter. OK, d'accord. Donc, je vais remplacer le fouet par la correction. OK? Donc, dans l'éducation des enfants, la correction peut faire partie. Quand on parle d'éducation des enfants, quoi d'autre vous revient à l'esprit?
Être un modèle.
Être un modèle.
C'est important la correction.
Tout va ensemble. Voilà. Donc, quand on parle d'éducation des enfants, c'est être un modèle. En tant que parent, il faut être une figure qui est un modèle pour les enfants. Parce que les enfants copient tout, regardent ce qu'on fait. C'est bon? Souvent, on va les surprendre en train d'imiter maman ou bien d'imiter papa. Donc, s'ils sont en train de copier. La répétition. C'est ça, on nous dit la répétition est pédagogique. Hein? Donc, par la répétition, effectivement, on apprend. Donc, l'éducation des enfants occupe une place essentielle dans la vie familiale. Okay? Donc, de nombreux ouvrages, qu'ils soient chrétiens ou non, proposent aux parents diverses méthodes pour remplir cette mission avec succès. On va nous dire tout se joue avant 6 ans, par exemple. Ou bien les 10 méthodes pour éduquer un enfant efficacement. Comment prendre en charge un enfant. Donc, on en a tellement. C'est soit des ouvrages chrétiens, ça peut être des ouvrages non chrétiens, de psychologues, et chacun essaie d'apporter effectivement des, je dirais, de mettre un peu de recettes, d'apporter des recettes pour que l'éducation des enfants puisse bien se faire ou que les enfants se développent mieux. Mais la question qu'on se pose, quelle est l'approche biblique de cette responsabilité? Parce que l'éducation des enfants ou éduquer un enfant est une responsabilité. Et quelle est l'approche biblique qu'on a? Autrement dit, comment éduquer nos enfants selon la sagesse que la Bible enseigne? Et ce matin, on abordera l'ensemble du thème sous la responsabilité des enfants d'élever, ou du moins des parents, d'élever leurs enfants avec sagesse et constance, conformément aux voies du Seigneur. Donc c'est dans cette option-là que nous voulons regarder. Parce que dans l'éducation des enfants, on a l'instruction aussi, on a la correction, comme on a dit, mais on a la leçon 5 et 6 qui vont parler essentiellement de ça. Donc aujourd'hui, je ne vais pas aborder dans ce sens-là, ok? Parce qu'il y a deux leçons qui vont en parler. Et pour préparer ce cours, j'ai pris ce livre-là, que j'ai trouvé très intéressant, en tout cas que je voudrais vous conseiller, pour ceux qui veulent bien. J'ai trouvé qu'il était fondamentalement appuyé sur la parole de Dieu. Et puis, comparé aux autres livres qu'on peut lire, quand même, qui donnent aussi de bonnes recettes, mais ça peut être des recettes à partir d'expériences personnelles, ça peut être des recettes à partir de l'observation de la vie sociale ou des recettes psychologiques. Des fois, c'est des recettes qui vont être diamétralement opposées à la parole de Dieu aussi. Mais lui, je l'ai trouvé assez bon. Et puis, donc, il m'a servi quand même de guide aussi dans la préparation du cours. Donc, c'est « Parents chrétiens, que faire ?» de John MacArthur. Donc, pour ceux qui sont curieux de le lire. Donc, l'éducation de nos enfants est une charge importante. Au fil de la croissance des enfants, différents sentiments et émotions peuvent nous traverser. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Des fois, ça peut être des sentiments ou des émotions de fierté parce qu'on voit les enfants se développer et réussissent. Ça peut être des moments de joie, mais des fois, ça peut être des moments de regret, de peine parce qu'on voit que les enfants prennent d'autres voies. Ils prennent d'autres voies et puis on est frustré, on est fâché ou on est découragé même. Et donc, ces émotions-là peuvent nous traverser. Mais malgré cette diversité d'émotions, nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants selon la voie de Dieu. Donc malgré ces émotions ou ces sentiments qui viennent nous animer, on n'a pas le choix de comprendre que éduquer les enfants, c'est notre responsabilité en tant que parents. Et cette mission demande sagesse, constance et dépendance envers le Seigneur. Donc une façon de dire que c'est une mission qu'on ne peut pas accomplir seul. C'est-à-dire, nous-mêmes, là, on est désarmés d'avance. Des fois, quand tu regardes la croissance des enfants à un moment donné, tu dis, non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon affaire? Voilà. Donc, c'est important, effectivement, que nos regards soient tournés vers le Seigneur là-dessus. Donc, le plan que je propose, c'est celui-ci. Éduquer les enfants, c'est les protéger. Éduquer les enfants, c'est comprendre leurs principaux besoins. Éduquer les enfants, c'est leur faire connaître la bonne nouvelle. Éduquer les enfants, c'est leur enseigner la sagesse pratique. Donc, protéger nos enfants, donc voici quelques raisons que j'ai pu énumérer. La société est en déclin au niveau moral, éthique et spirituel. Les lois sont votées de plus en plus en s'opposant aux valeurs chrétiennes et puis la famille qui s'effondre. C'est-à-dire, le divorce est rendu, une nouvelle recette maintenant. Quand ça ne va pas, ce qui marche, le divorce. L'homosexualité qui prend de l'ampleur aussi, le féminisme radical, et puis la normalisation de la famille monoparentale. Donc, de plus en plus, on ferait la promotion même de la famille monoparentale. Et puis, donc, tous ces éléments-là, c'est des raisons qui nous poussent à protéger nos enfants. Et comment les protège-t-on? C'est-à-dire, les enfants sont une bénédiction. Genèse 1, 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et Psaume 127, le verset 3 nous dit, voici, des filles sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une bénédiction. Donc le premier élément qu'on doit pouvoir retenir dans l'éducation des enfants, pour la protection des enfants, on doit pouvoir comprendre que les enfants sont une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. Quelqu'un pourrait me lire Genèse 4, 25. Genèse 4, 25. Et 17, 20 et 31 à 2. À tour de rôle, celui qui trouve un passage peut le lire. Ok, parfait. Donc ici, on voit, elle reconnaît que c'est Dieu qui donne. Donc c'est un don de Dieu. Un enfant, c'est un don de Dieu. Amen. Genèse 17, 20. Amen. Donc, on voit ici encore que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne l'enfant. OK? Le dernier passage. Amen. Donc, on voit ici que Rachel, dans toute sa colère, parce qu'elle ne faisait pas d'enfant, donc là, elle attaque son mari. Là. Alors, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Donc, sa colère s'enflamme et puis lui rappelle que les enfants, c'est Dieu qui donne, ce n'est pas moi. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Donc, on voit effectivement que les enfants sont une bénédiction. C'est une grâce de Dieu d'avoir un enfant. C'est Dieu qui donne un enfant. Amen. Donc, déjà, le premier principe en tant que parent qu'on doit pouvoir avoir, c'est que nos enfants sont des bénédictions que Dieu nous donne. C'est-à-dire, on n'a pas à regarder ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent, leur comportement ou quoi que ce soit. Premier principe, les enfants sont une bénédiction que Dieu nous donne. Amen. Donc, protéger nos enfants, c'est-à-dire le premier élément, un enfant est un don de Dieu. Un enfant est une récompense de Dieu. Un enfant est une bénédiction et non une épreuve. On avait le frère Fata, Julien, qui aimait nous dire, mais quand les enfants ils sont petits, c'est des anges, mais quand ils grandissent, ça, c'est autre chose. Donc c'est ça, mais il peut y avoir effectivement des difficultés dans l'éducation des enfants, mais le premier principe qu'on doit pouvoir garder en nous, c'est qu'un enfant est une bénédiction. C'est un don de Dieu et non une épreuve. Un enfant est une bénédiction. Amen. Oui, les épreuves sont la bénédiction pour nous parfaire. c'est bon. Et le deuxième élément dans protéger nos enfants, c'est-à-dire c'est accomplir ses devoirs vis-à-vis de Dieu en qualité de parent. Donc, le premier élément, l'enfant est une bénédiction pour nous. Et le deuxième élément, quels sont nos devoirs, les devoirs que nous devons accomplir? Et qu'est-ce que le Seigneur nous pousse à accomplir comme responsabilité? Alors, les parents ont la responsabilité de prendre soin des enfants, de les instruire selon la voie de Dieu, de les protéger contre les dérives de la société, de les corriger. Et j'ai mis point, 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 point. Donc ça, c'est notre responsabilité en tant que parents. C'est-à-dire, on ne peut pas regarder à la vie de l'enfant ou des enfants et puis décider de dire, ah, OK, je me désengage par rapport à son éducation, je me désengage. Par rapport à ça, non. Ça, c'est notre responsabilité de prendre soin des enfants et de les instruire. Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, l'instruction spirituelle de l'enfant est un devoir parental. Et j'ai noté en bas, l'Église ou la communauté est un instrument que Dieu nous donne pour nous accompagner dans ce devoir-là. Donc, en tant que parents, nous sommes les premiers responsables de l'éducation spirituelle de l'enfant, de la voie qu'il doit suivre. Et puis, l'Église n'est qu'un instrument que Dieu met pour nous accompagner dans cette éducation-là. Des fois, moi, il va m'arriver, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, je vais penser faire l'inverse. Penser que c'est l'Église qui va aider à l'éducation spirituelle de l'enfant, et puis moi, j'accompagne derrière. Mais en réalité, c'est moi d'abord qui dois commencer l'éducation spirituelle de l'enfant et puis l'Église accompagne. L'Église, on est à l'Église ici peut-être une ou deux fois par semaine. Mais à la maison, on est là tous les jours. Donc, c'est-à-dire, en tant que parents, c'est notre responsabilité de commencer à bâtir cela au niveau familial, dans les études qu'on va faire avec les enfants, dans le partage, dans le modèle qu'on va être devant eux. C'est bon? Donc ça, on doit pouvoir comprendre cela. Donc c'est notre première responsabilité. Et discutons ensemble. La réussite des parents dans l'éducation des enfants se mesure-t-elle à ce que deviennent les enfants? Ou encore, quand est-ce qu'on, quand est-ce que l'on peut considérer qu'un parent a réussi l'éducation des enfants? Ou encore, comment peut-on mesurer la réussite des parents dans l'éducation des enfants? Donc, c'est la même question que j'ai essayé de décliner pour que chacun prenne la portion qu'elle comprend mieux. Okay. Donc, je voudrais avoir quand même nos avis là-dessus. C'est-à-dire, comment peut-on mesurer la réussite des parents dans l'éducation des enfants? C'est-à-dire, j'ai dit, ah, j'ai réussi l'éducation des enfants. À partir de quoi? Ou quand est-ce que l'on peut considérer qu'un parent a réussi l'éducation des enfants? Selon vous. Donc, Benjamin note que le barème, c'est est-ce qu'on a éduqué nos enfants selon la parole de Dieu? C'est bien ça. Hein? Est-ce qu'ils ont été instruits selon la parole de Dieu? Quelqu'un d'autre dirait, ben moi je dirais que l'éducation de mes enfants a marché, ou j'ai réussi l'éducation de mes enfants parce que c'est des hauts cadres dans la société, par exemple. Ok, donc, un meilleur soutien, Benjamin. Et puis, note qu'effectivement, c'est trop prétentieux de dire qu'on a réussi l'éducation des enfants, parce que le plus important, c'est de les éduquer selon les voies de Dieu, et puis Dieu fait ce qu'il en veut après. Amen, oui. Soutien ou opposition. Okay. C'est intéressant, les deux interventions se rejoignent. C'est-à-dire, l'autre intervention, effectivement, c'est-à-dire, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité, c'est ce qu'on demande, mais est-ce qu'on l'a fait? Maintenant, quels sont les outils qu'on donne aux enfants? Donc, tout rentre dans le verset, hein, Proverbe 22, verset 6. Là, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, ça, c'est la première démarche, c'est le barème qu'on a. Ce que nous, on a à faire en tant que parents, c'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Maintenant, ce que l'enfant devient, est-ce que c'est notre responsabilité? C'est pas de notre responsabilité. Oui, c'est ça. Donc, le premier outil qu'on pourrait donner à l'enfant dans son épanouissement, dans son développement, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Parce que c'est selon elle qu'on veut instruire l'enfant. Donc, c'est l'outil qu'on donne. Maintenant, c'est l'accompagnement dans cet outil-là. C'est l'accompagnement dans cet outil. Les parents ont une responsabilité réelle. Ils doivent instruire, enseigner, corriger, aimer et guider les enfants. L'élément mesurable sera la fidélité dans ce rôle-là. Donc, Proverbe 22, verset 6. Donc, l'élément, je dirais, notre barème, c'est effectivement l'instruction dans la parole de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Et ici, mais les parents ne contrôlent pas le cœur de l'enfant. La fidélité des parents n'annule pas la liberté des enfants. Parce que l'une des difficultés qu'on a en tant que parents chrétiens, des fois, c'est de penser que parce que nos enfants viennent à l'église régulièrement avec nous, en ce moment, ils sont devenus chrétiens. Mais arrivé à un moment donné, ils doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent dire eux-mêmes qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. C'est-à-dire, ils vont connaître tous les chants de l'église, je vais dire tous les versets, mais est-ce que ça fait d'eux des chrétiens? Non, ça prend leur engagement. Ça prend qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et on peut lire les passages, 1 Samuel 2, 12 et 1 Samuel 8, 1 à 3. Donc, c'est la vie de prophète. Hein. Oui, vas-y. Tout à fait. Et puis, l'élément qui permet de mesurer, comme on a dit, ça sera, nous, notre responsabilité. Est-ce qu'on a été fidèle dans le rôle que Dieu nous demande? Maintenant, quant au reste, là, quant à ce que devient l'enfant, ça, c'est la responsabilité de Dieu. Mais nous, de notre responsabilité, c'est, comme Marie disait, c'est les outils qu'on va donner à l'enfant pour l'aider. Or, l'outil qu'on a à l'enfant, c'est l'instruire, effectivement, selon les voies du Seigneur. C'est-à-dire, moi, la question que je dois me poser aujourd'hui, mais est-ce que j'instruis les enfants selon les voies de Dieu? Est-ce que je prends le temps de travailler avec les enfants selon les voies de Dieu? Donc, est-ce que je suis fidèle dans ce rôle-là? Si je ne suis pas fidèle dans ce rôle, c'est que je dois me remettre en cause. Et quand bien même je dirais que je suis fidèle, même c'est, comme Améo le disait, c'est prétentieux de le dire. C'est prétentieux de le dire, mais il faut que je me tourne vers la parole de Dieu dans l'éducation des enfants. Je dois les instruire selon la parole de Dieu. Maintenant ici, le deuxième point, j'ai dit, mais les parents ne contrôlent pas le cœur de l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant peut être instruit effectivement selon les voies de Dieu. Je peux m'organiser avec eux et faire tout, mais est-ce que la décision de l'enfant de suivre Dieu ne dépend pas de moi? C'est-à-dire, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Ça ne dépend pas de moi. Mais c'est comme quand Dieu nous encourage, allez faire de toutes les nations les disciples. On va envoyer l'évangile, on va évangéliser. Mais la conversion d'une personne, d'un frère, d'une sœur, c'est Dieu qui l'attire. Donc, on doit pouvoir considérer les choses de la sorte. Ça, nous, notre responsabilité, c'est de faire. Et puis, on prie pour que Dieu touche les cœurs, pour que Dieu apporte les transformations. 1 Samuel 2:12, quelqu'un l'a trouvé? 1 Samuel 2:12 dit, « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. » Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Élie, c'était un souverain sacrificateur. Mais on dit ses fils étaient pervers. Est-ce qu'Élie a pris le temps de travailler avec ses fils? Est-ce qu'il a été un modèle pour ses fils? Mais il était sacrificateur. Il était, je dirais, prophète même de l'Éternel. Mais on nous dit que ses fils étaient pervers. Est-ce que c'était à son plaisir? Non. Et si je lis le verset 13, on dit « Et voici, quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. » Donc, ils s'en foutaient du sacrifice. Ils s'en foutaient de Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais c'était des fils de sacrificateurs respectés qui se comportaient de la sorte. Et lorsqu'on lit 1 Samuel 8, 1 à 3, quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Donc, on voit ça. Qui est Samuel? Quand on parle de Samuel et puis on lit l'histoire de Samuel, on pratique l'histoire de Samuel, on veut ressembler à Samuel. Mais on dit, voici comment ses fils se comportaient. Vous voyez, donc, pour dire effectivement que, arrivé un moment, la fidélité des parents n'annule pas la liberté des enfants. C'est-à-dire, les enfants, on va les gérer jusqu'à quel âge. Arrivé un moment, à l'adolescence, on va voir des poils de rébellion qui vont commencer par sortir et on progresse un peu. Et tout ça là. Mais ce que nous, on a à faire, notre responsabilité, c'est de les enseigner, les conduire selon la parole de Dieu. Mais quant à leur cœur, ça ne dépend pas de nous. C'est ça. Donc il y a ici la promotion qui est faite. Mais avant la promotion, il y a l'attitude, le cœur des enfants. Okay, donc ici, l'élément sur lequel on s'appuie, ou sur lequel je voudrais attirer notre attention, c'est que le cœur des enfants, ce n'est pas nous qui les façonnons. Nous les éduquons, nous leur donnons l'instruction qu'il faut. Nous prions pour que les enfants puissent être sur le droit chemin comme nous, mais leur cœur, c'est eux-mêmes. Donc, c'est leur responsabilité. J'insiste là-dessus parce que des fois, en tant que parent, beaucoup de parents vont se culpabiliser. Parce que pour nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait ou quoi que ce soit, mais arrivé un moment donné, l'enfant est responsable de ses décisions. Les parents sont responsables de l'éducation des enfants, mais pas du résultat final. Ça, c'est ce dont on a discuté tout à l'heure. Donc, pour l'éducation, on est responsable. On va les instruire. Mais pour le résultat final, nous ne sommes pas responsables du résultat final. Et puis, les enfants sont des personnes libres que Dieu attire à lui comme il veut. Jean 6,44 et Jean 3,16, s'il vous plaît, on peut les prendre. Jean 6,44 ou Jean 3,16, c'est le verset qu'on connaît le mieux ou qui est le plus cité. Et puis Jean 6,44, donc c'est Dieu qui attire. Donc comprenons que c'est Dieu qui attire nos enfants. C'est-à-dire autant on prie, quand on va à l'évangélisation pour que le Seigneur touche les cœurs, attire les âmes à lui, autant on a la responsabilité aussi de prier pour nos enfants pour que le Seigneur attire leur cœur à lui. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'on est là avec les enfants, forcément, qu'ils ont accepté le Seigneur. Donc, on doit prier pour que Dieu les attire, que leur cœur se tourne vers le Seigneur. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc ça vient indiquer ici, d'abord la responsabilité des parents. Tantôt on a insisté sur le fait qu'on doit être des modèles. Donc avant de transmettre aux enfants, on doit pouvoir nous-mêmes intégrer cela. Être des modèles nous-mêmes avant de transmettre. C'est-à-dire on ne dira pas aux enfants, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais on dira aux enfants, faites ce que je dis et faites ce que je fais. Donc, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc ça, ça s'adresse aux parents. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. J'essaie de jouer un peu sur inculquer. Je dis, mais inculquer, c'est-à-dire, est-ce qu'on le fait par la force ou bien... Oui, facile. Donc, la première des choses d'abord à enseigner aux enfants, c'est de montrer que nous, on n'est pas Dieu. Hein? Qu'on n'est pas des super, je dirais, des super hommes ou des super femmes. Qu'on a aussi des faiblesses. Hein? Qu'on a aussi des faiblesses. Et puis, je pense que par la parole de Dieu, au fur et à mesure, on les intègre. Mais il doit pouvoir comprendre effectivement que la référence, c'est la parole de Dieu. Et puis, je parlais de « tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison ». C'est-à-dire inculquer, c'est insister là-dessus. Inculquer, c'est prendre les moyens pour que les enfants puissent effectivement comprendre cela. Quand on voit l'histoire d'Israël, Israël a vécu avec différents peuples. Ils étaient dans différentes nations, ils ont fait beaucoup de pèlerinages et tout. Mais malgré cela, le Seigneur leur demandait d'avoir une certaine attitude, ne pas se conformer au peuple, aux habitudes, aux attitudes des peuples par lesquels ils passaient ou avec lesquels ils avaient des relations. Donc, ça y est, le standard de Dieu n'a pas changé. Donc, le deuxième point, c'est comprendre les besoins principaux de nos enfants. Psaume 51, verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça, c'était les propos de David. Et Proverbe 22, verset 15 nous dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Et dans les parcours de livres que je faisais pour regarder un peu les différentes méthodes, on dira certainement « Non, ne frappez pas l'enfant » ne dites pas certains mots à l'enfant, dites-le qu'il est fort, sage et intelligent, et puis l'enfant est tourné vers lui-même, toute la place lui est donnée en tant que tel. Mais ici, on nous dit que la folie est attachée aussi à son cœur. Hein? Okay? Donc, la correction peut l'en éloigner. Donc, ici, oui, vas-y. C'est ça, j'essaie de parcourir quelques articles. Je dirais même des articles reliés à la correction de l'enfant ici au Québec. Et puis, au niveau de la correction des enfants, c'est pas parce que c'est interdit, hein, c'est pas interdit, mais c'est la proportion ou la mesure qu'on utilise pour la correction qui pose problème. Je dis n'importe quoi. Par exemple, tu vas apporter une correction à ton enfant et puis tu vas prendre le gros bâton dans la maison parce que tu es tellement en colère, tu commences par le frapper, ça c'est déproportionné. C'est pas normal. Mais donner une fessée à l'enfant, c'est normal. Donc, il y a la proportion de la correction qu'on veut apporter par rapport, je vais dire, je dirais pas délit, mais à la faute que l'enfant a fait, qu'il faut mesurer. Je discutais une fois avec un ami à l'école et puis, donc chacun essayait de voir comment est-ce que les parents nous corrigeaient, quoi. Donc, chacun donnait un peu les méthodes des parents. Donc, lui me dit, mais tu sais, nous, quand le vieux voulait nous corriger, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend, il nous met dans un... je ne sais pas si je dis ça, je ne sais pas si tout le monde comprend. Mais en tout cas, il nous met dans un sac, un grand sac. C'est-à-dire où tu ne peux pas courir, tes pieds sont là. Et puis, il prend le bâton et puis te chicote. Il dit, c'est comme ça que les parents nous chicotaient. Et puis, c'était terrible, hein? Hein? Nos autres, pour nous chicoter, il y avait un type de chicote. Donc, ça ressemble à des balais, mais c'est tellement souple. Mais quand on te frappe une fois, ça te laisse des traces. Comprenez donc? Donc, quand on... Et puis, à des heures où tu es en train de dormir, tu es tranquille, peut-être à 4 heures du matin, tu penses que le pater a oublié la conséquence, mais pendant que tu es doux dans ton sommeil, à 4 heures du matin où la faute est finie, toi, tu penses que c'est fini, mais c'est là que toi, ta journée commence. Ton réveil est brutal. Donc, vous comprenez? Donc, c'est la proportion qui pose problème. C'est la proportion qui pose problème. Parce que, en le faisant, il y a eu beaucoup de conséquences négatives sur les enfants et tout. Ça peut, des fois, c'était psychologique, des fois même, c'était physique aussi. Et puis, c'est de gros regrets après. Voici pourquoi quand on dit, quand on est en colère, faut pas frapper. Faut pas poser l'acte parce qu'après, on le regrette. Donc, taper une fessée à l'enfant, si ça va pas, si ça doit le mettre sur le droit chemin, c'est autorisé. Maintenant, comme j'ai dit, ce sont les éléments, c'est la façon dont on apporte la correction qu'il faut regarder. Tout à fait. Il y a d'autres moyens. Moi, si je donne l'exemple des enfants, par exemple, Josué, quand il était petit, c'est-à-dire quand on doit le corriger, on dit « va au petit coin », mais il n'aimait pas ça parce qu'il était beaucoup bouillant. Mais quand il est isolé dans un espace en retrait, mais c'est comme si c'était difficile, c'était pas possible pour lui, quoi. Donc on dit, non, mais va au petit coin, tu attends au petit coin, tu fais rien. Ça, on te frappe pas, mais il est au petit coin et puis lui seul, il se met à pleurer. Parce que c'est difficile pour lui. Donc on essaie de trouver, comme la sœur l'a dit, trouver des moyens pour que l'enfant comprenne effectivement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, les priver, par exemple, de ce qu'ils aiment aussi, ça fait partie de la correction, ça fait partie des moyens qu'on utilise. Par exemple, un enfant ne viendra pas me dire, « Ah, papa, est-ce que tu peux m'acheter ça parce que j'ai un ami qui a ça? » Ça, ça ne marche pas. Vous comprenez? Donc, je veux dire que chacun trouve les formules pour pouvoir aider à amener le cœur de l'enfant, à changer le cœur de l'enfant, parce que le cœur de l'enfant est attaché à la folie. Voilà, le cœur de l'enfant est attaché à la folie. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, dans la verge de la correction, là, on peut mettre plusieurs choses. OK? Le retrait fait partie de la verge de la correction. La privation par rapport à ce que les enfants aiment peut faire partie de la verge de la correction. La fessée peut faire partie de la verge de la correction. Donc, on va trouver ce qui va amener l'enfant à prendre conscience et, comme le frère a dit, à comprendre qu'il a lui aussi des responsabilités, quand bien même qu'il a des droits. Les enfants ne viennent pas au monde en cherchant Dieu et sa justice. C'est-à-dire quand un enfant naît, ça ne veut pas dire quand il naît, il cherche Dieu, il devient chrétien, il cherche la justice de Dieu. Non, non. Nous naissons naïfs et inexpérimentés et sommes influencés par notre environnement. Selon le principe biblique, personne ne naît parfaitement innocent. Nous héritons de la culpabilité et de la corruption du péché d'Adam. Donc, quand un enfant naît, il hérite déjà de cette culpabilité-là. Donc, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, les philosophes nous diront que tout homme naît bon et que c'est la société qui le transforme. Ça, c'est ce que les philosophes vont nous dire. Mais en réalité, on dira seulement qu'on est naïf et inexpérimenté. Et puis, on est déjà avec cet héritage de pécheur. Donc, un enfant n'est pas bon. Quand un enfant naît, il ne cherche pas Dieu. Il faut qu'on lui montre Dieu. Il faut qu'on lui apprenne à connaître Dieu. Donc, personne ne peut croire sans avoir entendu le message, c'est pourquoi notre témoignage parental est si précieux. Romains 10, verset 14, quelqu'un peut le lire. Amen. Donc, ça veut dire, en tant que parents, on a la responsabilité d'annoncer l'évangile à nos enfants. Et puis, les enfants, ils assimilent assez, ils sont bons, là. Ils assimilent assez vite. C'est-à-dire, on leur présente l'évangile. C'est notre responsabilité en tant que parents. Donc, le besoin fondamental d'un enfant, c'est sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Certains vont le faire tôt, d'autres vont le faire un peu en grandissant et tout cela, mais Notre responsabilité en tant que parents, c'est qu'on annonce cet évangile-là aux enfants. Qu'on leur fait connaître que Christ est venu mourir à la croix pour nous, pour les hommes, pour nos péchés. Et pendant que je préparais ça, je donnais un exemple un peu... Mais quand on prend un enfant qui est au lait, qui est du moins au sein, vous allez voir l'enfant, il grandit, il tète. Mais arrivé un moment, quand il tète, il va commencer à mordre le bout de sein de sa mère. Et puis, il la regarde. Mais quand on le tape un coup, après, il commence à se ranger là-dessus. Mais qui lui a appris à mordre, à faire mal? Donc, ça vient naturellement. Vous allez mettre des enfants ensemble, deux enfants innocents, on va les mettre ensemble, vous allez voir, ils sont en train de se regarder, jouer, et puis il y a un simplement qui commence à frapper dans le visage de l'autre. Peut-être parce qu'il a vu quelqu'un en train de frapper, ou parce qu'instinctivement, lui-même, il se met à frapper. Donc, on doit annoncer l'évangile aux enfants, leur parler. Et donc, j'ai pu recenser d'autres besoins, en plus du besoin fondamental, qui est le fait qu'ils puissent rencontrer Dieu, qu'on leur annonce l'évangile, ils ont besoin de rencontrer le Seigneur. Il y a un besoin d'affection et d'amour aussi. Parce que les enfants ont besoin d'affection. On a parlé dimanche dernier de l'ambiance familiale. Donc, l'affection et l'amour sont des besoins fondamentaux aussi pour les enfants. Oui, oui, chère sœur. Parfait. Donc, amener les enfants à exprimer effectivement leurs émotions. Donc, dans leurs émotions, là, il y a ce besoin d'affection, ce besoin d'amour. Donc, amener les enfants à s'exprimer, à parler. C'est bon? Le besoin d'instruction spirituelle, ça, on en a largement parlé. Le besoin de modèle. Proverbe 20, verset 7, quelqu'un pourrait le lire. Donc, le juste marche dans l'intégrité, heureux ses enfants après lui. Parce que ses enfants regardent ce que le père fait, ce que la mère fait, ce que les parents font. Et puis vont tenter de marcher selon ce qu'ils ont vu faire. Proverbe 17, verset 1, avec la discorde, ça on l'avait vu pour l'ambiance familiale aussi dimanche dernier. Donc ils ont un besoin de sécurité et de paix. C'est-à-dire, l'enfant ne doit pas avoir peur de rentrer à la maison chez lui. Mais quand il est dehors, son désir devrait être de dire « Ah, je désire rentrer à la maison. » Parce qu'à la maison, il sait qu'il est en sécurité. À la maison, il sait qu'il y a une ambiance de paix qui règne. Besoin de discipline, bienveillance. Donc la discipline bienveillante, c'est tout ce dont on a parlé tantôt, relié à la correction de la verge. C'est-à-dire notre discipline, elle est bienveillante parce qu'on le fait avec amour. Et besoin d'encouragement aussi, c'est-à-dire il va arriver que la tendance serait de voir que tout ce que les enfants font, on ne va pas les encourager parce que des fois, pour nous, c'est naturel et tout ça. Mais des fois, on a besoin de leur dire, ils ont besoin d'entendre que, ah, mais tu as fait un bon coup, c'est bien. Et puis, on t'encourage là-dedans, continue et vas-y. Et moi, j'ai pu observer que des fois, en tant que parent, on a la facilité de féliciter autour de nous ou d'encourager autour de nous. Mais quand ça nous concerne, dans notre propre maison, on a cette difficulté à le faire. Ou du moins, si on ne le fait pas, peut-être parce qu'on a l'impression que c'est des acquis. Et on ne va pas le faire. Et je vais donner un exemple pratique. C'est-à-dire la tendance de dire, ah, ok, de dire à quelqu'un, bon, ok, d'accord, on prend rendez-vous, tu viens, on va prier ensemble et tout. On va le faire facilement avec autrui que de dire à notre enfant, bon, tu viens et puis on va prier pour ce sujet facilement. Comprenez? Donc, nous, en tant que parents, on doit apprendre effectivement à faire ces choses-là, à renverser ces vapeurs-là. Donc, apprendre à encourager les enfants, c'est-à-dire à les motiver, c'est un besoin que les enfants ont. Donc, c'est notre responsabilité en tant que parents de pouvoir souvent les encourager, taper sur les épaules pour dire « Ah, ok, ça c'est bon. » Même quand ça ne va pas, on doit être là pour pouvoir les encourager. « Ok, ça va aller la prochaine fois, on y va, on est ensemble. » Et tout cela motive et puis ça bâtit leur personnalité aussi. Et le besoin de prière, ici on a mis Job 1, verset 5, Job qui prenait le temps de prier pour ses enfants régulièrement. Donc nous, en tant que parents, on a cette responsabilité-là de prier aussi pour nos enfants. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous voudriez ajouter là-dessus. Sentez-vous libre, hein? C'est un partage, donc s'il y a des éléments que vous voulez ajouter, vous le dites, et puis ça nous permet de saisir ensemble. Donc ça, ce sont les besoins principaux de nos enfants qu'on a pu donc recenser. C'est-à-dire quand l'enfant pleure, on doit être capable de s'asseoir auprès de lui et puis essuyer ses larmes. Peut-être des fois la tendance sera de dire tais-toi et puis quitte devant moi là. Tu pleures pourquoi? Quitte devant moi. Non, faut le prendre et puis comprendre ses émotions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ça permet à ce que l'enfant facilement puisse s'ouvrir à nous et puis discuter avec nous que d'aller voir quelqu'un dehors et puis parler, se confier à la personne qui certainement, peut-être si la personne n'a pas les mêmes orientations que vous, va donner d'autres conseils et puis on voit, on perd nos enfants. C'est bon? Donc, ça marche, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. Donc, effectivement, c'est tellement bien dit parce que l'idée pour nous, c'est de quoi? C'est d'apporter les corrections à ce que la société présente aux enfants. Mais si on ne laisse pas les enfants s'exprimer, si on ne laisse pas les enfants faire ressortir leurs émotions, en ce moment, l'encadrement pour nous devient difficile. C'est-à-dire, je ne dirais pas l'encadrement, mais plutôt l'accompagnement. L'accompagnement devient difficile. Donc, il est important que les enfants expriment leurs émotions. Mais moi, je vais dire, mais c'est vrai, je vous laisse exprimer vos émotions, mais il faut savoir exprimer vos émotions parce que j'ai un arrière-plan bizarre, dictature, qui m'a accompagné, qui m'a éduqué. Donc, pour rejoindre un peu, il y a l'aspect culturel aussi qui va intervenir. Il y a l'aspect culturel. Des fois, on va plaisanter pour dire, quand vous rentrez dans la maison, à partir du moment où vous franchissez la porte, là, vous n'êtes plus au Canada, mais vous êtes encore d'Ivoire. Bon, juste pour rire, pour dire que c'est... Des fois, il y a l'aspect culturel aussi qui impacte nos rapports, nos relations avec les enfants. Mais des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais le plus important, il faut que les enfants s'expriment. Il faut qu'on les écoute. Et dans l'ambiance familiale qu'on a vu la communication le dimanche dernier, on a dit communiquer, c'est non seulement savoir se taire, mais c'est aussi savoir écouter. Il faut se taire pour écouter, il faut montrer de l'intérêt. Mais des fois, les enfants vont venir nous raconter des choses et puis tu es tellement fatigué ou quoi que ce soit que tu n'as même pas le temps de l'écouter. Mais or, peut-être à cet instant précis, la personne vit une situation et puis elle veut partager avec quelqu'un. Et c'est toi qu'elle trouve sur son chemin. Mais si tu ne l'écoutes pas, c'est quelqu'un d'autre qui va l'écouter. Donc c'est important. C'est ça. Donc c'est un encouragement effectivement à pouvoir regarder ces passages-là et puis marcher dans une bonne ambiance familiale. Le point 3, c'est faire connaître la bonne nouvelle. Deutéronome 6 qu'on a lu tantôt et puis Colossiens 3:16. Donc la responsabilité des parents est ici rappelée. La parole de Dieu doit faire partie de l'éducation des enfants. Comme parents, nous pourrons nous sentir limités à faire connaître la bonne nouvelle aux enfants. Quel pourrait être le contenu de la bonne nouvelle? Parce que des fois, l'une des difficultés qu'on a en tant que parents, on ne sait pas comment partager la bonne nouvelle aux enfants. On ne sait pas comment les instruire selon les voies de Dieu. Et les éléments sur lesquels on pourrait, enseigner les enfants, le premier élément, c'était la sainteté de Dieu. Et le deuxième élément, c'est que tous les hommes sont pécheurs. Qui est Christ et ce qu'il a fait? La repentance et mettre leur confiance en Christ. Donc ici, c'est le contenu qu'on peut partager avec les enfants. Et j'avoue que j'ai trouvé cela assez intéressant lorsqu'on est en face de la difficulté de pouvoir donner des outils aux enfants, comment marcher avec eux, ou comment les apprendre à marcher avec le Seigneur. Donc, la sainteté de Dieu, 1 Pierre 1, verset 16, quelqu'un pourrait le lire, et puis quelqu'un pourrait chercher Colossiens 2, verset 9 aussi. Donc, 1 Pierre 1, verset 16, oui. Voilà, donc ça c'est... Donc, Dieu est saint et il souhaite qu'on soit saint. Donc déjà, ça c'est la base quand on veut commencer à annoncer la bonne nouvelle aux enfants. Donc, il faut que les enfants comprennent, il faut qu'on comprenne effectivement que Dieu est saint. Et donc, parce qu'il est saint, nous aussi, il veut que nous soyons saints. Mais nous sommes inclus et les enfants aussi sont inclus. Et le deuxième point, c'est que tous les hommes sont pécheurs. Et qui est Christ et ce qu'il a fait? Donc, souvent, c'est ce qu'on va souvent annoncer cela aux enfants. Voici ce que Christ a fait pour toi. Et puis, après, on parlerait donc de la repentance. Et encourager les enfants à mettre leur confiance en Christ, quels que soient les moments. Et le quatrième point, c'est enseigner la sagesse aux enfants. Proverbe 8, verset 10 à 12, qui dit « Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Les parents ont la responsabilité d'élever les enfants avec sagesse divine dans tous les domaines. La parole de Dieu nous donne des lignes à suivre sur bien des questions pratiques, par exemple sur le caractère, la justice, l'intégrité, les relations et bien d'autres choses. Ici, on a fait le distinguo entre enseigner la sagesse et puis annoncer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, ici, quand on l'annonçait, ici, c'est faire connaître. Dieu fait connaître ce que Christ a fait pour nous et comme la repentance et puis mettre notre confiance ici sur Dieu. Maintenant, quand on parle de la sagesse ici, la sagesse, ça va être la pratique de tous les jours dans la vie de tous les jours. Donc, en tant que parent aussi, on a cette responsabilité-là. Et le livre des Proverbes est un livre inspiré qui nous montre de façon pratique la sagesse à transmettre à nos enfants. La sagesse n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais elle est aussi pratique. Donc, la leçon essentielle à enseigner, c'est que, en tant que parent, pouvoir enseigner la crainte de Dieu aux enfants. Parce qu'on dit le commencement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, si on veut être sage, premier élément, c'est qu'on doit avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est la base. On commence par ça. Enseigner aux enfants à veiller sur leurs pensées, à obéir à leurs parents, à choisir leurs amis, à maîtriser leurs convoitises, à veiller sur leurs paroles, à persévérer dans le travail, à gérer leur argent, et puis etc., etc., etc. Donc ici, ça montre effectivement que il s'agit de la pratique de notre vie courante. Des fois, on a de la difficulté dans notre gestion financière. On n'arrive pas à coordonner cela, mais il faut qu'on apprenne cela aussi aux enfants. Parce que dans la Bible, on ne va pas nous donner des détails de gestion, d'organisation et tout. Mais la Bible va nous donner un principe. Et à partir de là, est-ce que cela peut être transféré aux enfants? Donc, je veux dire, c'est les domaines de vie pratiques sur lesquels on va travailler quand on parle de la sagesse. Pour finir, les parents ont reçu de Dieu la responsabilité d'éduquer leurs enfants selon ses voies. Et cette mission englobe l'instruction, la direction, l'amour et la correction, afin que le cœur de l'enfant soit progressivement tourné vers Dieu. Éduquer les enfants selon la sagesse divine les prépare à affronter la société et les équipes pour servir Dieu avec fidélité. Le rôle des parents ne se limite pas à transmettre des valeurs, il consiste à accompagner les enfants vers une vie façonnée par la vérité et la grâce de Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, nous aide dans ce rôle. Amen. Ok. Je vais prier. Père éternel, nous te bénissons. Te disons merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes ce matin. Père, nous voulons te prier afin que tu viennes nous aider, Seigneur, dans cette responsabilité que tu nous confies en tant que parents, Seigneur Dieu. Père, donne-nous la sagesse. Donne-nous ta direction, Seigneur. Et donne-nous ta paix. Et apprends-nous, Seigneur, à être fidèles dans ce rôle d'éducation des enfants que tu nous donnes. Béni sois-tu, toi qui règnes à jamais. Merci pour notre adoration ce matin. Bénis le culte au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à chacun. Merci pour votre contribution.